Bonjour à tous.
Pour avoir fait la revue de presse, je sais que le 25 décembre, c'est compliqué. Oula. Parce que les journaux ne paraissent pas, mais on se débrouille avec Internet et je suis sûr que vous avez trouvé des choses intéressantes. Alors, irez-vous chercher des huîtres de Noël au distributeur automatique, Marc?
Ah oui, alors le Figaro se pose la question en ce 25 décembre. Des huîtres, des crevettes, du saumon fumé vous attendent sagement ce matin à Gouville-sur-Mer dans la Manche. Et n'en déplaise aux puristes, cette initiative d'un ostréiculteur normand devrait connaître un franc succès, prédit la journaliste Marie Bartnik. Au moins autant que le distributeur de fromage comté dans le Jura, que le distributeur de rillettes dans la Sarthe, ou la baguette fraîche et la pizza un peu partout en France. Oui, c'est un phénomène de société. Le distributeur automatique remplace les commerces physiques à l'heure où 60% des communes n'ont plus un seul magasin. Le voilà, le nouveau commerce de proximité. Il se recompose plus qu'il ne disparaît, écrit le Figaro. On est passé du « c'était mieux avant » au « c'est mieux que rien ».
Ah ben oui,
et oui, voilà. Oui. Et oui, les clients apprécient de pouvoir acheter un produit en passant à toute heure et même le dimanche. J'achetais mon pain comme ça avant d'ouvrir à mon tour mon distributeur de charcuterie, témoigne la patronne d'une boucherie à Coutances dans la Manche. Et de poursuivre, je suis toujours surprise de voir que des clients viennent chercher un saucisson sec à 1h du matin. Des huîtres, du pain, des pizzas, du saucisson, le 25 décembre, d'accord. Mais ce n'est pas la panacée, ajoute le maire de Vesoul, Alain Chrétien. Où est le contact humain? Et puis disons-le, ajoute l'édile, ces distributeurs, ils sont franchement moches.
Non mais puis des huîtres dans un distributeur, une pizza qui se réchauffe toute seule.
On va vérifier la fraîcheur quand même.
Oui, le saucisson, ça se conserve, mais alors les huîtres, bonjour.
À voir.
Le journal Le Monde, lui aussi, se met à table ce 25 décembre.
Et nous parle de ces poissons de la criée de l'Orient, bientôt importés par avion du sultanat d'Oman. C'est le projet lancé en grande partie par l'agglomération du Morbihan pour sécuriser son approvisionnement en produits de la mer. Près de Mascate, un pôle halieutique inspiré de l'écosystème maritime lorientais devrait voir le jour dans les prochains mois, un site pharaonique pour alimenter la criée bretonne. Le projet fait des vagues jusqu'à son nom, Ker Oman, un jeu de mots à la sauce bretonne, écrit Le Monde. Le Huffington Post, lui, s'intéresse au dessert. L'incroyable histoire de la bûche de Noël. Mmh. Elle n'était pas en crème, cette bûche. Elle était en bois et dans la cheminée à l'origine. Une tradition qui a disparu dans les années 50 avec l'arrivée des poêles en fonte. Et c'est bien triste, nous dit le Huffington Post. Cette bûche, en chêne ou en hêtre, était censée apporter une bonne nouvelle. Plus elle brûlait longtemps, plus elle craquait, plus elle portait bonheur.
Ça me rappelle le conte Pinocchio dont on tire un petit pantin avec une bûche.
Exactement.
Quel sens donner à Noël cette année?
Alors vos quotidiens régionaux font leur liste au Père Noël ce matin. De la solidarité pour la Charente libre, de l'espoir pour la Provence, un peu de magie supplie le Midi Libre. Que vive la paix, tranche l'Alsace. Car ce Noël est très particulier cette année. Lisez ce reportage à Bethléem, on en parlait il y a quelques instants. Bethléem dans le journal Le Monde également. Cette ville chrétienne, vide de touristes et de pèlerins qui subit de plein fouet les effets de la guerre. Entre les commerces fermés et les rues désertes, on trouve l'église évangélique luthérienne. Elle a fait sensation sur les réseaux sociaux. Cette année, la crèche représente un enfant Jésus couché dans des ruines. Le magazine L'Express, de son côté, retient une autre image. Un détail sur la façade de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Sous une fenêtre du premier étage figure une petite échelle en cèdre, toute simple. Cette échelle, elle est là depuis au moins 1728 et personne parmi les six ordres qui régentent cette église ne sait à qui elle appartient. Et depuis 1728, faute de réponse, eh bien personne n'y touche, raconte Anne Rosenscher. Ce petit ouvrage à 5 barreaux, on lui a donné un nom, l'échelle du statu quo.
Dans M, le magazine du Monde, peut-on encore avoir le cœur à rire en ce moment?
Ouais, long dossier à lire sur le rire en temps de guerre, portrait à lire de Bassem Youssef et de Mo, deux humoristes arabes exilés aux États-Unis qui utilisent la parodie, les clichés et le cynisme pour décrocher un sourire. Reportage aussi sur ces humoristes israéliens chargés de faire rire les troupes. Dans la culture juive, le rire est l'outil central pour surmonter les difficultés, raconte un chercheur. Même s'il est entouré aujourd'hui de sérieux bémols, les Arabes israéliens n'ont pas encore droit au chapitre et un humour trop politique risquerait de mettre la population en colère. Et en France, dans tout ça, l'époque est à la trouille, résume le dessinateur Plantu. Pour autant, est-ce qu'on peut plus rien dire? Est-ce que c'était mieux avant? Aime Le Monde Magazine, nous rafraîchit la mémoire. Souvenez-vous de ce qu'ont enduré Pierre Dac, Pierre Desproges, Coluche lorsqu'ils moquaient la religion, le pouvoir ou la police. Chaque dérapage de Thierry Leluron se soldait par un contrôle fiscal. Chaque provocation de Jean-Yann lui valait un licenciement. On en compte une bonne poignée et presque autant de réhabilitation. À tel point que Jean-Yann avait réécrit le règlement interne de l'ORTF. Article 3, ouvrez les guillemets. Quand quelqu'un a été viré, il peut être repris à une condition que la personne qui l'a viré se soit fait virer. Mais oui, ce n'était pas forcément mieux avant, rappelle aussi l'historien Jacques Le Goff. Demandez donc aux moines qui recevaient un coup de fouet pendant 2 semaines pour avoir étouffé un fou rire au Moyen-Âge. À cette époque, raconte Jacques Le Goff, les exégètes justifiaient leurs sanctions par cette formule lapidaire « Jésus n'a jamais ri ».
Bon, c'est faux. J'espère qu'il s'est bien marré. Voilà un personnage qui ne donne pas le sourire.
Alors, il fait 2,50 m de haut, David, de longues cornes, un air menaçant. Le Washington Post vous présente ce matin Krampus, un personnage d'Europe centrale devenu une mascotte aux États-Unis. Krampus, c'est l'anti-Père Noël. Il accompagne Saint-Nicolas au bout d'une chaîne. Il cherche les vilains enfants pour les battre à coups de bâton. Bref, un bon gros méchant, bien grossier, bien autoritaire. En fait, il correspond à l'air du temps, écrit très sérieusement le Washington Post. Mais Krampus surtout fait vendre. L'Alabama à l'Illinois, on s'arrache les pulls étoilés à son effigie. Cette figure d'anti-héros punisseur analyse le quotidien américain. C'est ce qui plaît à ceux que Noël et Mariah Carey ont fini par lasser. Mmh. D'ailleurs, si vous refaites un tour sur le Huffington Post, vous apprendrez ce matin que le Père Noël n'existe pas. Il n'existe pas et qu'il faudrait bien le dire à nos enfants un jour. Une psychopraticienne casse un peu l'ambiance dans l'article. Les désillusions, ça permet de grandir.
Ouais, ben les psychopraticiens, surtout ceux qui annoncent la mauvaise nouvelle de l'inexistence du Père Noël, il faut les mettre à distance. On les met sous le sapin pendant un certain temps. Mais alors, que reste-t-il de Noël si les psychopraticiens s'en mêlent pour casser nos dernières illusions?
Eh bien, il y a les écrivains, heureusement. La meilleure définition se trouve dans le Figaro ce matin. Interview de Pierre Adrian qui met fin au suspense tout de suite. Non, à Noël, on ne se repose pas. C'est un moment de bouffe, de fatigue sociale. On retrouve tout le monde. Mais ce qui est sans doute intéressant, raconte l'écrivain, c'est ce qu'il se passe juste avant Noël. Ce petit moment de chaos, ces grandes villes qui se vident, pleines d'appartements transformés en coquilles vides. Avant Noël, il y a une sorte de grande aspiration, ces trains pleins de jeunes qui reviennent chez eux en province, des valises qui s'entrechoquent, des gares pleines. Au moins pour Noël, conclut Pierre Adrian, on a l'impression de revenir au village, de repeupler l'espace qu'on laisse désert toute l'année. Et pourquoi pas écouter un peu de Frank Sinatra.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow.
When we finally... Let it snow, Frank Sinatra pour conclure la revue de presse de Marc Bourreau qu'on retrouve demain à peu près à la même heure sur Radio Classique.
Avec plus de journaux.
Bah oui, j'espère, je vous le souhaite en tout cas. Merci Marc, mais en tout cas il y avait de la matière.
Hein. Oui.
Simplement, il ne faut pas du tout écouter les psychopraticiens cliniciens qui expliquent qu'il faut dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas. Très franchement, il y a d'autres idioties à partager avec ses enfants que cette information stratégique. Dans un instant, on retrouve notre Père Noël de la philosophie à nous, c'est Luc Ferry, comme tous les lundis.